Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir encore Jean-Claude Rochouze, qui est un de nos plus gros contributeurs et qui va, en tant que trésorier de l'association de la truite d'Iroise, participer à cette interview halieutique qui va faire un état des lieux des poissons des rivières et ruisseaux de la Drôme. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Merci encore de tes nombreuses contributions.
Oui.
Et puis donc... qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous apprendre aujourd'hui sur ces poissons de la Drôme? Y en a-t-il beaucoup?
Alors, il y a aux environs de 8 à 9 espèces de poissons, peut-être 10, dans la Drôme. Au niveau du Diwa, je dirais qu'il y en a 8 espèces pour la Drôme et les ruisseaux du Diwa. Je ne parle pas des pièces d'eau close qui peuvent avoir des espèces supplémentaires, mais seulement des eaux courantes. Donc, dans les eaux courantes du Diwa, où on peut pêcher si on prend sa carte de pêche, il y a aux environs de 8 espèces.
Sont-elles particulières au Diwa ou les retrouve-t-on partout ailleurs?
On les retrouve ailleurs, mais de façon inégale. Il y a deux espèces qui sont liées quand même aux montagnes, je dirais. C'est le chabot, qui est un petit poisson, que l'on n'attrape pas à la ligne d'ailleurs, il est de mœurs nocturnes, et que l'on trouve dans le bassin du Bèze et dans la Haute Drôme. Donc ce petit poisson est quand même lié aux régions montagneuses. Et puis la deuxième espèce, c'est le barbeau méridional ou méditerranéen, que l'on trouve essentiellement dans le bassin de la Roanne, dans la Roanne et dans la Brette, qui est un barbeau plus petit que le barbeau commun et que l'on ne trouve que dans le sud-est de la France.
Il a quelle taille ce barbeau?
Il peut arriver, moi j'en ai capturé un qui faisait 28 cm, c'est le maximum.
C'est quand même une belle bête.
Oui, ça peut être assez gros. C'est un joli poisson, on appelle ça le barbeau truité. Il a des couleurs un peu marron, des taches marron. Il a des barbillons. Hein, les barbeaux se caractérisent par des barbillons qui sont des organes sensoriels.
C'est des espèces de petites moustaches, non?
Ouais, comme des petites moustaches hein, qu'ils promènent sur le fond pour détecter leur proie. Ça mange les petites larves aquatiques, ça mange les vers de terre. Voilà. Donc c'est un poisson que l'on peut consommer, bien qu'il soit plein d'arêtes, comme tous les barbeaux.
Alors je te propose de continuer un petit peu, de passer en revue tous les poissons qu'on trouve dans nos rivières pour venir peut-être un peu plus précisément sur ces deux poissons typiques.
Oui. Ouais.
Alors donc qu'est-ce qu'on trouve encore comme poisson dans nos rivières?
Alors on trouve l'ablette spirlin, qui est une petite ablette qui peut arriver à faire 12 cm et que l'on trouve dans la Drôme essentiellement. Je pense qu'elle remonte... Presque jusqu'à Recoubo, peut-être Lucandiwa, mais en tout cas Recoubo, il doit y en avoir. Et Adi, on peut en capturer. C'est un petit poisson qui mange des petites proies que l'on peut même attraper à la mouche. Alors, il est toute petite mouche. Donc ça s'appelle l'ablette spirlin. Il y a aussi alors celui qui évite les bredouilles, je dirais. C'est le chevenne que dans le Diwa on appelle le meunier. Donc ça c'est un poisson qui peut faire une grande taille puisqu'on peut en capturer qui font 2 kilos. Mais c'est devenu très rare dans la Drôme. Je ne sais pas très bien pourquoi. Il y a deux explications. Les hérons qui pourraient prélever les gros spécimens. Et puis paradoxalement, comme la Drôme est de plus en plus épurée, c'est-à-dire que l'eau est de meilleure qualité en raison de la construction des stations d'épuration. Mais comme le barbeau mangeait les détritus, par exemple ceux qui étaient à la sortie des abattoirs, la population générale de barbeaux et de meuniers, surtout les meuniers, les chevennes, diminuent. Mais on en trouve tout de même en quantité assez importante, quoi. Ça, c'est le meunier. comme autre poisson, alors il y en a un qui est presque en voie d'extinction, mais on ne le capture pas à la ligne, il est très difficile à repérer, c'est la loche France. C'est un tout petit poisson, on appelait ça la dormille dans la Drôme, un tout petit poisson que l'on ne voit presque plus. Donc il y a celui-là, il y a aussi, alors l'autre poisson typique, je dirais, de la Drôme, de tout le cours de la Drôme, c'est un poisson qui s'appelle le blason et que l'on appelle ici la soif. C'est un poisson qui peut arriver à faire 14 cm, que l'on attrape avec des larves aquatiques, avec des vers de terre, que l'on peut attraper en pêchant à la mouche, et qui se caractérise pour le mâle par une bande violacée tout le long du flanc au moment de la reproduction. Donc ça, c'est le blason. Donc blason et chevesne sont les deux poissons qui sont les mieux représentés dans le bassin de la Drôme.
Donc il y en a encore un paquet.
Il y en a encore, oui, il y en a encore. Il y en a aussi dans la Roanne, et les blasons remontent même dans le Bèze. Hein. Alors, exceptionnellement, on peut trouver aussi, ça c'est un peu nouveau, des perches, probablement très peu, mais probablement parce qu'elles se sont échappées de l'étang Grisal, qui est vers Recoubeau. Donc, quelques-unes se sont déversées dans la Drôme. Et semble-t-il, elles subsistent. Elles subsistent. C'est un joli poisson, la perche. Il n'est pas habituel de la Drôme. Je dirais, il y a 20 ans, il n'y en avait aucune. Mais c'est un joli poisson que l'on trouve partout en France. La perche commune, hein, ce n'est pas la perche soleil, c'est la perche commune, qui dans les grands fleuves peut arriver à une taille de... Dans la Loire, moi j'en avais attrapé une qui faisait 2 kilos. Mais dans la Drôme, j'en ai attrapé une qui faisait 18 cm, ça semble être la taille maximale. Donc on trouve quelques perches dans la Drôme. Et puis il y a aussi celui qui fait des fritures également, de très bonnes fritures d'ailleurs, c'est le vairon. Hein, le vairon qui est un tout petit poisson que l'on capture aussi, que des pêcheurs capturent pour pêcher la truite au vairon. Donc ça, les vairons, on en trouve aussi partout. Ils se mettent dans les petits cours d'eau, ils peuvent être dans les petits cours d'eau, dans le Charsac, il y en a beaucoup. Ils peuvent remonter dans le Bèze, il y en a dans le Bèze, il y en a dans la Haute-Drôme, il y en a en fait un peu partout. Et ça, c'est un poisson, en fait, la friture de vairon est très bonne. Hein. Alors le poisson royal, bon, considéré comme royal, c'est bien sûr la truite fario.
Je me demandais si tu allais en parler un jour, je n'osais pas te poser la question.
Oui, parce qu'en général, on parle toujours de la truite, et on parle beaucoup moins des poissons blancs, ce qu'on appelle les poissons blancs. Donc la truite fait partie des salmonidés. Les salmonidés se caractérisent par une toute petite nageoire adipeuse qui est sur le dos, en arrière de la nageoire dorsale. Donc quand on trouve un poisson qui a une toute petite nageoire adipeuse en arrière de la dorsale, c'est un salmonidé. Donc les saumons ont cette petite nageoire, les truites aussi. Dans la Drôme, il y a plusieurs espèces de truites et plusieurs variétés. Donc l'espèce de truite qu'on trouve dans la Drôme, c'est la truite fario, qu'on trouve dans toute la France, dans toute l'Europe. Mais c'est la variété méditerranéenne. Et la variété méditerranéenne se caractérise par de nombreux petits points rouges, alors que l'autre variété, la variété atlantique, se caractérise par de gros points rouges. Alors, il y a eu des déversements, et l'association, d'ailleurs la truite du Vase, fait des déversements de truites. Et quand on déverse des truites, seulement deuxième catégorie, là où il y a des poissons blancs et des truites, c'est la variété atlantique, parce que bizarrement, il n'y a pas de pisciculture qui fasse l'élevage de variétés méditerranéennes. Par contre, on essaye de préserver la variété méditerranéenne, donc de ne pas déverser des variétés atlantiques dans les ruisseaux de première catégorie, parce que semble-t-il, il y a eu quelques expérimentations, la truite méditerranéenne, comme elle est d'ici, elle est mieux adaptée aux conditions locales, donc elle se débrouille mieux en cas de diminution du débit, semble-t-il, peut-être qu'elle résiste mieux à des parasites, à des... voilà. Elle est très méfiante, ça voit de façon remarquable les truites. Hein. Des fois, on est 10 mètres derrière une truite, et je ne sais pas comment elle fait, mais elle repère, elle s'enfuit. Donc ces truites de variété méditerranéenne, on les trouve dans tout le Diois, Sauf, bien sûr, à l'exception des ruisseaux qui peuvent s'assécher complètement pendant 3 mois en été. Bon, là, il n'y a pas de poisson.
Peut-être ont-ils l'instinct de descendre ces cours d'eau quand ils sentent qu'il est en cours d'assèchement, peut-être ?
Quelquefois, mais pas toujours. Pas toujours. Il y a 3 ans, dans la Sûre qui s'était asséchée, la Sûre s'assèche souvent dans son cours aval, il y a des truites qui sont mortes. Elles se font bloquer dans des petits trous. Le trou s'assèche complètement et la truite meurt.
Alors, tu as parlé de poissons blancs et d'autres.
Ce qu'on appelle poissons blancs, en fait, c'est tous les poissons sauf les salmonidés. Sauf les truites, les saumons.
Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont classés comme blancs ?
C'est un terme qu'on utilise. Ils ne sont pas blancs, en fait. Hein.
C'est leur chair qui est blanche, peut-être, non ? Parce que la chair du saumon, elle est plutôt rose.
Oui, mais la chair de la truite d'Iwaze, elle est blanche, en fait. Exceptionnellement, elle peut être rose, mais c'est rare. La chair est rose lorsque les truites mangent beaucoup de petits crustacés qu'on appelle les gamards, qui colorient la chair en rose. Mais en général, quand on capture une truite et qu'on la consomme, la chair est blanche. Hein. Non, c'est un terme qui est assez utilisé. Voilà. Bon, enfin, en fait, on pourrait remplacer le terme blanc par le terme cyprinidé. C'est-à-dire que tous les blasons, les meuniers, les barbeaux, tout ça, c'est des cyprinidés. C'est une grande catégorie de poissons. Il y a 200 espèces. Bon, mais la perche, par exemple, n'est pas un cyprinidé, c'est un persidé. Donc, on prend un peu le mot général poisson blanc pour dire que ce n'est pas un poisson salmonidé.
Alors pour en revenir à la perche, ça m'a un peu interpellé quand tu as dit que c'était suite sans doute à un déversement de perche de la carrière Grisal à Recoubo.
Ouais. Ouais.
Parce qu'ils ont élevé de la perche dans leur étang et puis comment elle a pu sauter de,
Parce qu'il y a eu un orage, et puis le déversoir a débordé et puis elles sont parties. Donc il suffit qu'il y en ait 5-6 qui partent avec des mâles, des femelles, après ça se reproduit et puis elles se développent. Hein, mais ce n'est pas gênant, c'est un joli poisson.
C'est assez carnivore quand même, la perche ?
Ah, c'est carnivore, bien sûr. Hein. C'est un poisson qui, quand il est petit, il mange des larves aquatiques, des vers de terre. Mais quand il est gros, il peut bien sûr consommer des verrons. Les perches chassent en banc dans les grands fleuves. Elles chassent en banc et elles capturent des cyprinidés, en fait. Mais il y en a peu,
Et leur avenir, tu penses ? Parce que je ne sais pas si c'est comme pour nous, avec
une
histoire de patrimoine génétique, s'il n'y a pas assez de représentants de l'espèce, il s'affaiblit par conséquence.
Non, je ne pense pas. Probablement, elles peuvent subsister parce qu'on assiste, comme partout ailleurs, au phénomène de réchauffement climatique, qui se traduit par un réchauffement des eaux. Il y a 2 catégories pour les poissons au niveau des pêcheurs. La deuxième catégorie, la première catégorie. La première catégorie, c'est là où il y a quasi exclusivement des truites, hein, essentiellement des truites, majorité et de truites et minorité de poissons blancs. La limite entre deuxième catégorie, donc des eaux plus chaudes, et première catégorie, il y a une vingtaine d'années, elle était au niveau du pont qui est en aval de Die, qui va vers la vallée de la Roanne, là, de la Sûre. Donc la première catégorie allait jusqu'à ce pont. Et maintenant, la limite de la première catégorie, c'est la confluence entre le Bèze et la Drôme. Donc c'est au niveau de Recoubo, un peu en aval de Recoubo, la confluence entre la Drôme et le Bèze. Donc là, c'est la limite de la première catégorie. Il y a eu un phénomène général de réchauffement climatique, si bien que, par exemple, le meunier, qui est un poisson que l'on ne trouvait pas dans le Bèze avant, il y a 30 ans, maintenant, on en trouve presque au niveau de Châtillon. Donc, il remonte peu à peu.
Et donc, les truites, c'est première catégorie, donc c'est au-delà de ce point, plutôt vers le marais des Bouligons.
Oui. Alors, bien sûr, que comme la truite d'Ioas déverse des truites en deuxième catégorie, on peut en attraper à l'ouverture, par exemple, en deuxième catégorie, au niveau de Die et même en aval. Mais c'est parce qu'il y a un déversement. Alors, il y a quand même quelques truites, naturellement, qui subsistent dans la Drôme, en aval de la confluence avec le Bèze. Il y en a.
Si vous ne faisiez pas de déversement de truites, est-ce qu'elle viendrait à se raréfier ?
Oui. Pour la deuxième catégorie, je pense que oui.
C'est-à-dire que vraiment l'intervention humaine est nécessaire pour que la truite persiste dans la deuxième catégorie de la Drôme.
Pour qu'il y ait une population assez importante, oui, probablement.
Jean-Claude, tu m'as un petit peu inquiété avec ces histoires de réchauffement climatique et de déplacement de la zone de première catégorie de plus en plus en amont.
Oui.
Qu'est-ce que tu ferais comme état des lieux des ressources halieutiques, des rivières et ruisseaux de la Drôme ?
Alors, on peut faire un état des lieux des ressources piscicoles par la pêche électrique. Donc, c'est un appareil spécial avec comme une épuisette, mais avec un anneau qui envoie du courant dans l'eau. C'est fait sous le contrôle de la Fédération départementale de pêche, hein, qui est à Valence. Et donc, avec cette électricité, tous les poissons, quand on plonge cette épuisette spéciale dans l'eau, tous les poissons remontent sans exception. Et on peut les attraper avec une épuisette normale, les compter, les mesurer. Donc on a vraiment l'état exact d'une rivière à un moment donné. Bon, c'est pour ça que, par exemple, moi j'ai participé à ça il y a 3 ans, je crois, dans les Gorges des Gards, où on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de chabots, hein, ce petit poisson, alors qu'on ne le voit pas quand on se promène. Il y en avait beaucoup et il y avait quelques truites, mais pas de grandes dimensions. Donc on peut vérifier vraiment par cette méthode-là l'état exact d'une population. Et au niveau des inquiétudes que l'on a, il y en a trois. Il y a trois problèmes qui se posent pour la préservation des ressources piscicoles. Bon, c'est ce réchauffement climatique qui fait que le domaine d'extension de la truite diminue. Ça, c'est le premier problème à long terme. À court terme, on a eu des problèmes au niveau d'une microcentrale où une vanne, dans la Meyrosse, où une vanne s'était fermée. Donc le débit réservé n'était plus assuré. La Meyrosse s'est asséchée complètement sur son parcours aval. Toutes les truites sont mortes. Donc il y a un problème de sécurité et de respect des débits réservés au niveau des microcentrales qui sont dans le Diois. Il y en a tout de même plus de 7 hein, microcentrales, dont 3 sur la Meyrosse et son affluent, le Raïs. Donc ça, c'est un deuxième problème. Troisième problème, on avait eu aussi le cas d'un agriculteur qui pompait beaucoup trop d'eau par des pompes installées dans un ruisseau. Donc, non-respect du débit réservé. Il y a, au niveau des ruisseaux et au niveau de la Drôme, impérativement la notion de débit réservé. C'est-à-dire que on doit toujours avoir de l'eau dans le ruisseau, c'est quand même la moindre des choses, pas seulement pour les pêcheurs, mais aussi pour les agriculteurs qui sont en aval. Hein. Donc c'est la moindre des choses, et d'ailleurs je crois qu'il va y avoir une loi qui va passer et qui va augmenter le débit réservé que l'on doit maintenir dans un ruisseau. Donc il y a eu des problèmes. Et l'autre problème, et c'est bien entendu, c'est évidemment une pollution, un accident de poids lourd, le pétrole qui se déverse dans le ruisseau. Enfin voilà, une mauvaise gestion au niveau des travaux sur des ponts. Il y a des pollutions possibles, d'autres personnes qui ne respectent pas, qui déversent les effluents n'importe où, n'importe comment. Bon voilà, il y a le problème général de la pollution.
L'association de la truite d'Iwaze est habilitée à gérer les permis de pêche et même un certain nombre d'actions pour essayer de revitaliser les poissons. Est-ce que vous êtes les seuls à vous occuper de
sur le Diois? Oui, sur le Diois, oui. Hein, il n'y a qu'une seule association, la truite d'Iwaze, qui va depuis les sources de la Drôme et du Bèze jusqu'à Saillant. Sur le bassin de la Roanne, c'est une autre association qui s'appelle la truite du désert. Et à partir de Saillant, c'est une autre association qui fait Saillant, Cray, etc. Il y a 4 ou 5 associations qui sont sur l'ensemble du bassin de la Drôme. Les plus grosses associations de pêcheurs qui ont plus de 2000 membres se trouvent bien sûr sur le Rhône.
Mais alors, ma question était, est-ce que vous êtes les seuls? Est-ce qu'il y a d'autres organismes gouvernementaux, régionaux qui s'occupent
de... Non, il y a d'autres organismes. Il y a les associations de protection de la nature, comme la FRAPNA et la LPO, qui, elles, se préoccupent du bien-être général de la nature dans tout le département. Il y a ces associations-là. Il y a l'ONEMA, qui est une association qui s'occupe aussi des problèmes de pollution, de qualité de l'eau. Il y a le syndicat mixte de la rivière Drôme qui s'occupe des problèmes de bonne qualité des berges, du contrôle des crues, de la qualité de l'eau. La Drôme est exceptionnelle. Il faut quand même reconnaître que la Drôme est exceptionnelle. C'est comme on l'a dit souvent, c'est l'une des dernières rivières sauvages d'Europe puisqu'elle n'a aucun barrage hydroélectrique de sa source à son embouchure. C'est pour ça qu'on peut faire du canoë pratiquement depuis sa confluence avec le Bèze jusqu'au Rhône. Hein, c'est exceptionnel, exceptionnel. Les eaux sont de bonne qualité et elles s'améliorent puisqu'il y a de plus en plus de stations de lagunage. Donc, il y a eu depuis presque plus de 20 ans un syndicat mixte de la rivière Drôme avec plusieurs participants qui a bien amélioré l'état de la rivière et dont l'action est reconnue même au niveau international. Hein.
Parle-moi un peu de cette association de la truite d'Ivoise. Depuis combien de temps elle existe? Alors, et quelles sont ses actions surtout?
L'association de la truite d'Ivoise est une très vieille association puisqu'il a été créé en 1903. Et elle s'est toujours préoccupée des permis de pêche, de la distribution des permis de pêche. Elle a des gardes pêche bénévoles qui contrôlent si les gens ont leur permis. On peut acheter un permis à la journée ou pour une semaine ou pour toute l'année. Hein, le permis pour toute l'année qui permet de pêcher dans tout le département de la Drôme coûte 70 € pour 2014. Et elle fait des déversements donc de truites fario en deuxième catégorie pour assurer un maintien des populations de truites fario en deuxième catégorie.
Et a-t-elle des moyens?
Les moyens sont les revenus qui lui sont procurés par les permis de pêche. Oui. C'est-à-dire que quand on achète un permis de pêche, il y a une part qui revient à l'association La Truite d'Ivoise, une part qui revient à la fédération départementale et une part qui, je dirais, revient à l'État et à la fédération nationale.
Mais ce que je voulais dire, c'est a-t-elle les moyens de lutter contre des pratiques ou si elle constate un fait délictueux, par exemple un braconneur qui pêche sans autorisation?
C'est un garde-pêche qui, s'il est là, peut faire le constat et faire un procès. Alors, c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut, aussi bien savoir s'y prendre. Il faut que la personne incriminée, il faut que ça soit fait correctement dans les droits, avec respecter un certain nombre de choses. Bon, c'est pas toujours évident. On a eu des actions qui n'ont pas abouti. Enfin, la personne n'a pas été condamnée, alors qu'elle aurait dû l'être, parce que ça avait été mal organisé. Bon, des problèmes juridiques, voilà. Mais il est nécessaire qu'il y ait des gardes-pêche, hein. C'est nécessaire.
Vous en avez combien à disposition et en activité?
Il y en a trois en activité. Il y a un garde-pêche fédéral qui, lui, dépend de la fédération départementale. Voilà. C'est insuffisant, il en faudrait plus. On a besoin de garde-pêche. Il y a une formation gratuite, hein, pour les gardes-pêche, assurée par la fédération départementale.
Et donc, ça consiste à patrouiller le long de la Drôme et...
Patrouiller le long de la Drôme, contrôler les pêcheurs pour voir s'ils ont leur permis, et contrôler aussi leur panier pour voir s'ils respectent la maille. Parce qu'il y a des poissons pour lesquels il y a une maille. En fait, il n'y a que deux espèces pour lesquelles il y a une maille dans le Diwa, la truite, fario, où il faut qu'elle ait 23 cm de la pointe du museau au milieu de la queue. Hein, 23 cm, ce qui est impératif à respecter parce que quand une truite dans le Diwa fait 23 cm, elle s'est déjà probablement reproduite deux fois. Donc il y a eu déjà une reproduction. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la maille de 23 cm. Et l'autre espèce, alors c'est pas un poisson, c'est l'écrevisse, où il faut une maille, une taille de 9 cm qui va du début du rostre à la pointe de la queue déployée. Il n'y a que ces deux espèces qui ont une maille. Pour les autres espèces, il n'y a pas de maille. Mais bon, il y a des pêcheurs aussi qui, des fois, remettent à l'eau les petits poissons. Bon.
Alors, juste une petite précision pour nos auditeurs. Nous avons déjà fait, avec Jean-Claude, un superbe sujet qui s'appelait « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'écrevisse à pattes blanches », que je vous conseille d'écouter parce que c'est passionnant. Et alors, juste une autre petite question. Quelles sont les périodes de pêche pendant lesquelles on a le droit de pêcher des poissons? Ce n'est pas quand même toute l'année?
Si, pour les poissons blancs, c'est toute l'année. Pour les poissons blancs, donc c'est toute l'année. Il n'y a que deux périodes de pêche qui sont instaurées. C'est pour la truite, où il y a vraiment une période de pêche, et pour l'écrevisse. Pour la truite, l'ouverture de la pêche en 2014, hein, c'est du 8 mars au 21 septembre inclus. Donc, on ne peut pêcher la truite fario, quel que soit l'endroit, en deuxième catégorie ou en première catégorie, qu'à partir du 8 mars et jusqu'au 21 septembre inclus. Et pour l'écrevisse, alors c'est beaucoup plus drastique, il n'y a que 2 jours de pêche à l'écrevisse, de l'écrevisse à patte blanche, c'est le 2 août et le 3 août.
Oui, sachant que dans cette interview dont je parlais, tu disais que c'était peut-être pas si une bonne idée parce que pour pêcher, il faut que on met de la viande dans des balances, ouais, et que ça leur donne, ouais, à manger et donc elles pourraient grossir plus vite.
Oui, oui, oui.
C'est ton avis ou c'est une...
C'est mon avis. Hein, c'est mon avis. C'est mon avis. Ce qui n'est pas partagé, par exemple, par la FRAPNA, qui veut interdire totalement la pêche de l'écrevisse, parce que c'est une constatation. Quand il y a 30 ans, il y avait plus d'un mois et demi de pêche à l'écrevisse, il y avait plus d'écrevisses. Donc, a priori, ce n'est pas parce qu'on a réduit la période de pêche qu'on a amélioré la situation. Donc, en fait, je pense que quand les gens venaient pêcher pendant un mois et demi, en fait, on pêche l'écrevisse avec des balances où on met de la viande, mais il y a une moitié de la viande qui part dans le ruisseau parce que ça passe à travers les mailles. À la fin de la séance de pêche, bah, les gens ils remettaient les bouts de viande dans le ruisseau et les écrevisses, les petites qui n'étaient pas prises, bah, elles venaient manger la viande, elles grossissaient. Donc, en fait, on nourrissait les écrevisses d'une certaine manière avec un mois ou deux mois de pêche autorisée. Maintenant, comme il n'y a plus que 2 jours, on ne les nourrit plus du tout. Et il semble qu'elle n'ait pas assez à manger. Si bien que moi, la dernière, j'étais allé à la pêche aux écrevisses. Bon, j'en avais pris en une journée 130, je crois. Mais il n'y en avait que 10 qui avaient la maille de 9 cm. Donc, il y a une importante population d'écrevisses, mais elles ne grossissent pas suffisamment pour arriver à la maille.
Il y a peut-être une question d'eau. Je me rappelle bien, voilà, que les écrevisses aiment l'eau froide. Et encore une fois, puisque les eaux deviennent de plus en plus chaudes, leur domaine vital,
oui,
diminue.
Oui, mais là, il n'y a pas trop de problème parce qu'en fait, les écrevisses à pattes blanches, depuis toujours, se trouvent dans des ruisseaux à eau froide. Il n'y en a pas au niveau de Die, hein. Donc il faut monter au-dessus du saut de la Drôme pour qu'il y ait des écrevisses en population importante. Et puis il y a quelques ruisseaux qui en ont aussi, en moins grande quantité. De ce côté-là, elles ont toujours été en eau froide et puis il n'y a pas de problème.
Jean-Claude, je te propose de revenir à 2 poissons qu'on a décrits au début, à savoir le chabot et le barbeau méridional, qui sont plus précisément dans les rivières du sud-est montagnards, si j'ai,
oui,
bien compris.
Oui, oui.
Et ils sont assez typiques des rivières du Diois. Et peut-être, oui, ont-ils des mœurs particulières ?
Oui, oui, oui. Alors c'est surtout vrai pour le chabot, qui est un petit poisson qui peut faire 10 cm, 12 cm, qui a une grosse tête, pas sympathique, hein, il est pas beau. Et c'est un poisson de fond, c'est-à-dire qu'il se maintient sur le fond. Il a des nageoires avec des épines qui lui permettent de s'accrocher sur le fond. Et la curiosité du chabot, en fait, c'est le mâle, qui est très bien. Le mâle est très bien parce que quand il y a la reproduction, donc le mâle se met dans un petit recoin de rivière, la femelle arrive. Donc la femelle rejette les ovules, le mâle rejette les spermatozoïdes, la semence. Il y a la fécondation, mais à ce moment-là, le mâle, donc on a des œufs en fait, hein, le mâle reste là où sont les œufs et il défend farouchement les œufs contre les prédateurs. Et même quand les petits chabots éclosent, Le mâle est toujours là pour les protéger. La femelle s'en désintéresse complètement, elle s'en va. Donc c'est le mâle qui assure la protection de la ponte. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique du chabot. Il est territorial, hein. En plus, ils sont territoriaux. Il y a un chabot dans un coin, puis il ne faut pas qu'il entre chez le voisin, hein. C'est comme pour l'épinosse. L'épinosse est aussi territorial. Et donc ça, c'est une caractéristique du chabot mâle, qui est un bon mâle, quoi, qui protège soigneusement sa descendance.
Et ça lui prend combien de temps ? Parce que si c'est 3 jours, ça va, mais si c'est 3 mois ou 6 mois qu'il doit garder
non,
sa progéniture ?
Non, je ne sais pas exactement combien de temps il va garder les œufs. Non, c'est pas très longtemps. Mais c'est efficace, puisqu'on a quand même une bonne population de chabots dans les gorges des Gards, dans la Haute Drôme. Par contre, il n'y en a pas dans le bassin de la Roanne, il n'y en a pas, à ma connaissance, dans la Sûre, je ne sais pas trop pourquoi, il y en a dans l'Archiane, voilà, c'est plus surtout Haute Drôme et bassin du Bèze. donc des eaux froides, bien oxygénées. Et il est caractéristique d'eau pure, non polluée, comme la truite de Fario.
À part ça, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce petit poisson typique de nos contrées?
Qu'on n'attrape jamais à la ligne. Il est de mœurs nocturnes. Bon, moi, je n'ai jamais attrapé à la ligne. Mais il faut dire qu'on ne pêche pas non plus. Mais en plus, il est de mœurs nocturnes. Il n'y a rien à manger. Enfin, il est petit avec une grossette. Il n'y a pas grand-chose à manger. Donc voilà, c'est une curiosité de la nature qui a son côté sympathique par ses mœurs particulières. Et pour le barbeau méridional, dans le Diois, et puis en France d'ailleurs, il y a deux espèces de barbeaux. Le barbeau commun et le barbeau méridional. La différence entre les deux, il y a plusieurs différences, mais les deux principales, c'est que le barbeau commun peut être beaucoup plus gros et atteindre une taille beaucoup plus importante que le barbeau méridional. Moi, ça m'est arrivé de casser sur des barbeaux qui faisaient 2 kilos dans la Drôme. Maintenant, ils sont peut-être un peu moins, mais il y en a quand même quelques-uns. Et puis, alors, l'autre caractéristique du barbeau commun, c'est que sur la première nageoire, sur la nageoire dorsale, le premier rayon de la nageoire, il est comme une scie avec des dents. Et le barbeau se débrouille, c'est intelligent, ces petites bêtes, se débrouille quand on l'attrape, des fois, il tourne sur lui-même, et il arrive dans certains cas à coincer le fil le long de cette nageoire dorsale, c'est une vraie râpe, et clac, ça casse. Et le barbeau méridional, l'évolution, on ne sait pas trop pourquoi, n'a pas inventé cette espèce de rayon dentelé. Donc il n'a pas de rayon dentelé. Alors il peut s'hybrider, hein, avec le barbeau méridional, les barbeaux communs peuvent s'hybrider. Mais bon, c'est ça la caractéristique. Et puis il y a les couleurs. Le barbeau méridional, en fait, est plus joli que le barbeau commun. Peut-être qu'il est plus varié, il a des taches marron, clair. On l'appelle le barbeau truité. Moi, je trouve que la chair du barbeau méridional est plutôt meilleure que celle du barbeau commun, mais elle est quand même pleine d'arêtes.
Les petites arêtes triangulaires dont tu as parlé.
Voilà, des petites arêtes triangulaires. Donc souvent, les pêcheurs le remettent à l'eau. Ils le font, je sais pas, en soupe.
Voilà. Ils broient tout, quoi.
Ouais, on broie tout. Mais par contre, c'est un poisson sportif. Avoir un gros barbeau au bout de sa ligne. Dans la Loire, vous avez des barbeaux qui peuvent atteindre à 5 kilos, 6 kilos. Oui, un gros poisson, hein, dans les fleuves. On reconnaît le barbeau commun et peut-être un peu moins le barbeau méridional, mais ça va rappeler des souvenirs aux baigneurs. Quand vous promenez le long de la Drôme en été, vous voyez des poissons qui tournent sur eux-mêmes et qui lancent des éclairs dans l'eau. Ça, c'est le barbeau commun, parce que quand il mange, souvent il se met d'un seul coup sur le côté et ça fait comme une espèce d'éclair argenté. Donc ils sont souvent en banc, hein, les barbeaux, souvent. Donc on voit plein d'éclairs argentés dans la Drôme, on se demande ce que c'est des fois. Et quand on s'approche, ben oui, ce sont les barbeaux communs en train de manger. Et ils ne mangent que des petites proies, bizarrement. Ils mangent plutôt des petites proies. Si bien qu'on les attrape pas si facilement que ça, mais bon, ils aiment aussi les murs, ils aiment même le gruyère, enfin bon. Mais il y en avait plus il y a une vingtaine d'années.
Ah, c'est l'âge. Je voudrais pas tomber dans le mythe de l'âge d'or, mais ça y ressemble quand même, c'était mieux avant.
Oui, mais bon, il y a des poissons, la blette spirlin, on n'en attrapait pas il y a 20 ans, on en attrape maintenant. Il y a aussi des choses qui se sont améliorées. Mais c'est vrai qu'il y a moins de... Les populations de gros chevennes et de gros barbeaux sont en nette diminution. Soit, je pense, peut-être les hérons, mais il y a eu des études scientifiques montrant que des hérons ne prélevaient que 3-5% d'une population de poissons. Soit, curieusement, une épuration très importante des rivières, avec la station de lagunage de Châtillon, de Luc, si bien qu'il y a moins de nourriture pour ces poissons blancs qui mangeaient les déchets d'abattoir, pour les barbeaux, pour les chevennes surtout, qui mangeaient tout ce qui passait dans l'eau. Donc en fait, il est bien possible qu'il y ait un peu une contrepartie à l'épuration de l'eau. Hein, c'est le problème d'une épuration tellement portée qu'il y a moins de nourriture pour certaines espèces de poissons. Alors théoriquement, comme c'est mieux épuré, on devrait avoir une augmentation des populations de truites. Mais ce n'est pas le cas, parce que l'eau se réchauffe. Et les truites ne supportent pas une eau chaude, parce qu'elle a une quantité d'oxygène dissous insuffisante. Voilà, donc y a moins de gros chevesnes et un peu moins de barbeaux qu'il y a 20 ou 30 ans.
Alors tu suggérerais qu'au lieu de recycler nos steaks hachés avariés, on les jette dans la Drôme directement?
Bah non, quand même pas, parce que là les baigneurs n'apprécieraient pas, et puis les canoës, on aime bien aussi une eau pure. Hein. Non, on va peut-être que les poissons, peut-être que les truites vont quand même finir par s'adapter et revenir en quantité plus importante. Et puis le problème de la Drôme aussi, ça a toujours été le cas, c'est que c'est une rivière torrentielle qui peut avoir des crues gigantesques. Hein. Je rappelle quand même que c'était en 2003, il y avait un débit de 600 mètres cubes par seconde à Saillant, donc presque deux fois le débit de la Seine, et qu'à ce moment-là, dans certains cas, non seulement les rives peuvent être ravagées, mais les poissons sont asphyxiés par l'eau qui est trop boueuse. Et peuvent mourir. Donc il y a aussi ce problème-là. Et puis pour les petits ruisseaux, alors ça c'est l'inverse, il peut y avoir un problème d'assèchement au mois d'août.
Ils ne sont pas balayés, hein, non, par le flux tout?
Ah oui, ils peuvent. Nous, quand on déverse des truites fario avant l'ouverture, comme c'est des truites qui sont élevées en pisciculture, elles ne sont pas tellement habituées au courant très fort. Si jamais il y a un orage qui se fait au moment où on les déverse ou une semaine après, eh ben on constate que toutes les truites partent vers l'aval et qu'elles n'arrivent pas à se maintenir. Ça a toujours existé. Hein. Classiquement, quand il y avait une très grosse crue, il y a 20 ou 30 ans, des fois les gens se mettaient au bord de la rivière pour ramasser les truites et les barbeaux, hein, qui étaient asphyxiés. C'est une eau hyper boueuse. Voilà. Il y a un problème d'oxygénation là, général. Bon, grâce à la reforestation, les crues de la Drôme sont devenues moins dangereuses, hein, puisque le record, la crue millénaire, était de l'ordre de 1100 mètres cubes par seconde vers 1850-60, ça avait tout ravagé. Depuis, il y a eu la reforestation, donc les grandes forêts font éponge, et on a moins ce problème-là. Mais la Drôme reste une rivière dangereuse.
Jean-Claude, y a-t-il des zones de la Drôme dans lesquelles il est interdit de pêcher ?
Oui, il y a deux zones en réserve de pêche intégrale, c'est le marais des Bouligons et la Comanne au niveau de Chamaloc. Voilà, là c'est réserve intégrale de pêche. Aucune pêche n'est autorisée, que ce soit pour les poissons ou pour les écrevisses. Et il y a une zone qu'on appelle en no-kill, où on peut pêcher à la mouche, à condition de remettre à l'eau les poissons et d'avoir des hameçons sans ardillons qui ne les abîment pas. Elle se trouve à Châtillon, au niveau du pont du camping, 300 mètres en amont et 300 mètres en aval. Voilà, c'est les seules réglementations qu'il y a, sans oublier le respect des mailles de 23 cm pour la truite et de 9 cm pour l'écrevisse à pattes blanches.
Et avant de te laisser, une dernière petite question. Confirme-nous que c'est néfaste de faire des barrages dans la Drôme. C'est vraiment néfaste?
Les barrages de baigneurs sont néfastes parce qu'ils font que les poissons ne peuvent pas circuler, ne peuvent pas descendre ou remonter. Et d'autre part, ils réchauffent l'eau, bien sûr. Hein, en amont du barrage, l'eau est calme. Donc l'eau est réchauffée, c'est défavorable pour les truites. La Rouanne, où au mois d'août, il y a énormément de baigneurs qui construisent énormément de barrages, était une très bonne rivière à truites il y a une trentaine d'années. Ce n'est plus une rivière à truites, c'est une rivière à poissons blancs. Donc il y a vraiment un effet néfaste au niveau de la biodiversité et aussi du maintien des truites créées par ces barrages. Les adultes doivent éviter de construire des barrages qui barrent complètement toute la rivière. Qu'il y ait des tout petits barrages faits pour amuser les enfants, ça, il n'y a pas de problème. Mais ces gros barrages qui barrent l'intégralité d'un cours d'eau sont néfastes.
Mais il n'y a pas tellement d'informations sur ce sujet qui informent les
plaisanciers. On avait mis, à un moment, la truite d'Ivoise avait fait une affiche pour indiquer que c'était défavorable. Et puis on distribue quand on prend un permis de pêche, on a un petit dépliant où c'est indiqué ouvrez les barrages pour les pêcheurs, ouvrez les barrages au milieu et sur les côtés pour faciliter la circulation de l'eau. Et les baigneurs eux-mêmes doivent, quand ils partent, ils doivent ouvrir les barrages.
Oui, ben ça, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une campagne d'information un peu plus massive, je pense.
Oui.
Parce que c'est vrai que l'été, les barrages, il y en a partout. Quoi.
Oui, puis il y a des baigneurs qui ne se rendent pas du tout compte que c'est néfaste pour la population, que ce soit des poissons ou des larves aquatiques. Hein. Ils pensent que ça n'a aucune importance. Non. La Rouanne a été massacrée par les barrages au niveau de sa population de truites.
Eh bien, merci Jean-Claude. Hein, tes compétences et ton savoir et ta pédagogie sont très appréciées.
Merci.
Et puis, reviens quand tu veux.
Voilà. Et puis, prenez le permis de pêche. Et les permis de pêche sont déjà disponibles dans les dépositaires de permis. Il y a 7 dépositaires dans le Diois. Donc vous pouvez prendre le permis dès maintenant.
Et tu peux les citer un petit peu justement, ça peut être intéressant.
Il y a un dépositaire à Saillant, c'est le Café des Sports. Il y a le Café de la Clairette à Versenis. Il y a Gamme Vert à Die. Il y a l'Office de Tourisme de Die. Il y a un café-restaurant à Châtillon. Il y a le Café des Voyageurs qui est à Recoubault. Et à Luc aussi, il y a le café-restaurant qui se trouve sur la Grande Place et qui, lui, n'ouvrira que le 8 janvier, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, on peut aussi d'ailleurs prendre des cartes de pêche par Internet en faisant www.cartesdepêche.fr.
Eh bien, merci Jean-Claude. À la revoyure.
Voilà. Merci bien.
Au revoir.
Merci à vous.
Interview.
Hey, the bird.
Interview du jour. L'interview du jour.